Jésus étant le médiateur et la médiation, il a, dans le cadre de cette médiation, trois fonctions qu'on peut appeler fonctions médiatrices de l'alliance, puisque être médiateur, je le répète, c'est conclure une alliance. Eh bien, il a trois fonctions médiatrices qui sont très faciles à dégager. Ce sont les fonctions de prophète, de souverain sacrificateur et de roi. Ces fonctions existaient en Israël, mais pourquoi existaient-elles dans le peuple d'Israël? Pour être préparées afin de revenir au Messie quand il viendrait pour les saisir toutes les trois. Voyons maintenant Jésus-Christ comme prophète. Nous allons parcourir quelques textes. D'abord, prenons l'évangile de Matthieu. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, vu comme le prophète. Nous ne pouvons pas dire un prophète, nous disons le prophète par excellence. Matthieu 7, 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Nous verrons tout à l'heure ce que l'on peut retirer de cette affirmation, non pas comme leurs scribes. Il enseignait comme ayant autorité, une autorité que l'on ne connaissait pas et qui se révèle dans les discours du Seigneur. Chapitre 13, versets 53 et 54. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Nous voyons encore ici l'étonnement, un étonnement tel qu'il devient une occasion de chute pour ceux qui ne peuvent pas apporter la foi nécessaire à cette acceptation du surnaturel. Alors, ils raisonnent, ils tombent dans le raisonnement et naturellement, c'est pour eux une occasion de chute. Mais nous voyons qu'ici, dans ce passage, Jésus se désigne lui-même comme un prophète. Prophète. Il s'accorde ici la qualité de prophète. Nous allons maintenant dans Jean, chapitre 7, verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous retiendrons particulièrement cette déclaration. Et puis, au chapitre 8, chapitre suivant, verset 28, « Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Je parle, Jésus parle selon ce que le Père lui a enseigné. Et enfin, nous irons à l'Épître aux Hébreux, au début de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Dieu a parlé par le Fils. après avoir parlé par les prophètes. Jésus a rempli la qualité, la fonction, je veux dire, de prophète. Cela est un aspect de sa personne et de son œuvre. Un aspect seulement, bien entendu, il n'est pas que prophète. Nous avons dit que c'était l'une des trois fonctions médiatrices de l'Alliance. La parole de Dieu faite chair a en effet trois grandes choses à faire. D'abord à se révéler par la parole. Alors ça, c'est Jésus dans sa fonction de prophète. Puis, elle a à offrir, à apporter le sacrifice rédempteur. Alors là, c'est Jésus en tant que souverain sacrificateur. Puis, il lui faut rassembler pour le royaume de Dieu, montrer, manifester le royaume de Dieu qui est le but. Alors là, c'est Jésus dans sa fonction de roi. Vous savez que lorsqu'il avait gardé trois de ses apôtres pour leur montrer la venue du royaume de Dieu, il s'était montré lui en son jour, lui dans son avènement. Ça a été la transfiguration sur la montagne. Donc, le royaume de Dieu, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui nous montre Jésus comme roi. Jésus ne peut pas naître que prophète. Il ne peut pas naître que victime. Il ne peut pas naître que roi, parce que s'il n'était que roi, la condamnation subsisterait, il n'y aurait personne à rassembler pour constituer un royaume. Par conséquent, son œuvre est une plénitude de ses fonctions, prophète, souverain sacrificateur et roi. Un prophète, qu'est-ce donc qu'un prophète? C'est un homme qui parle pour Dieu et qui est le témoin de la vérité. Il fait entendre Dieu. Son être, sa vie, son existence, dans le moment, bien entendu, n'est-ce pas, où Dieu se sert de lui, eh bien, son existence, sa parole sont saisies par Dieu et Dieu s'exprime par lui. En plus de cela, dans sa fonction de prophète, Jésus est le révélateur de Dieu, donc il est un prophète par excellence. Lui-même, Jésus, a parlé de Jean-Baptiste en disant plus qu'un prophète, alors que pourrions-nous dire de Jésus, n'est-ce pas, plus qu'un prophète, bien entendu, le prophète par excellence. Le crucifiement d'un innocent était une chose qui avait été déjà vue. Mais en ce qui concerne le Seigneur, en ce qui concerne son crucifiement, il fallait que l'on puisse y discerner la rédemption. C'est un crucifiement comme il y en a eu d'autres, mais le sien, n'est-ce pas, dans le sien, il y aura l'acte de l'expiation et par conséquent de la rédemption, du rachat. Et pour cela, pour que l'on puisse discerner, pour que l'on sache, il faut que le crucifiement soit précédé d'un enseignement. Les caractères généraux de l'enseignement de Jésus sont les suivants. Nous les verrons assez rapidement, certains. L'humilité. Je terminerai ce matin par cela, l'humilité. La profondeur, la simplicité de forme, la concision que j'aime souvent souligner, la concision, la puissance, et puis le fait que son enseignement demeure inépuisable, une source inépuisable. Ça, c'est surnaturel. Voilà, n'est-ce pas, les caractères que l'on peut reconnaître à l'enseignement du Seigneur Jésus. Alors, au cours de l'Église, hélas, Et c'est ça qu'il faut voir, chers amis, il ne faut pas se laisser leurrer aujourd'hui, ou alors, n'est-ce pas, vraiment, on n'a rien saisi de l'Évangile. Se laisser leurrer, n'est-ce pas, par des rapprochements factices avec les religions du christianisme, religions traditionnelles, parce que ces religions, que sont-elles? Elles sont des doctrines, elles sont des théologies, elles sont des traditions, elles sont tout cela, et ces doctrines, ces traditions diversifient, compliquent, altèrent l'enseignement du maître. C'est pourquoi la position du chrétien évangélique, c'est celle d'un retour à la source, à l'Évangile lui-même. N'écoutons par conséquent que Jésus. Jésus qui enseigne est lui-même la vérité. Il est la vérité. Comme le médiateur est également la médiation, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tout cela se trouve en lui, en sa personne. Attendre et chercher une doctrine? Non. Chercher Jésus-Christ lui-même, là sera le contact avec la vérité. Chercher Jésus-Christ lui-même. Mais prenons garde à quelque chose. Nous voyons bien du trouble en notre temps. On nous dit que beaucoup de membres des formes traditionnelles du christianisme, que ce soit le catholicisme, le protestantisme ou autres aspects, on nous dit que beaucoup de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, et l'on nous donne à considérer notamment qu'ils sont attirés vers Jésus-Christ. Jésus-Christ les attire. Ah, c'est un fait nouveau, nous dit-on, voyez-vous, l'Évangile et puis Jésus-Christ les attire. Et quand on s'approche un petit peu de ces gens qui, nous dit-on, sont attirés par Jésus-Christ, on trouve là, n'est-ce pas, des gens qui sont surtout manœuvrés par leurs propres sentiments. Ce sont des sentimentaux, ce sont des gens surtout très sensibles du côté de l'âme, ce sont des gens qui sont à la recherche, selon le temps, selon d'ailleurs, n'est-ce pas, une sorte de phénomène qui se voit sur toute la terre, ils sont à la recherche d'une mystique. Et alors, nous pouvons dire, n'est-ce pas, attention, il ne suffit pas d'avoir pour Jésus-Christ une attraction par les sentiments. Elle peut exister, cette attraction, sans qu'il y ait du tout la foi, sans que la foi se soit mise à l'œuvre. On peut sentir, ressentir une attraction sans être pour autant converti. Alors je ne dis pas que cette attraction soit elle-même à rejeter, mais il faut aller plus loin. Mais c'est là qu'il faut dire à ces gens, mais ne vous arrêtez pas à ça, ce n'est qu'un commencement que vous avez là. Ah, il faut que vous considériez la parole de Jésus-Christ si vous êtes attiré vers lui. Considérez sa parole, découvrez-le, lui, entièrement, pleinement, allez à lui, et pour cela, abandonnez toutes les chaînes, abandonnez vos chaînes, abandonnez jusqu'aux liens les plus légitimes même, qui pourrait vous unir encore, ou vous retenir du côté de votre famille. Le Seigneur l'a dit, et par conséquent, bien plus encore les liens que vous pourriez avoir avec la religion dans laquelle vous vous trouvez encore. L'enseignement de Jésus-Christ a pour objet la personne même de celui qui parle. Puis, pour objet, le sacrifice, ce baptême duquel il faut, disait Jésus, que je sois baptisé, la coupe qu'il fallait et qu'il boive, la résurrection qui est en vue, le lien avec le Père, et qui est ce lien qui est le sien, mais qui va être transmis aux disciples. Et puis, le royaume de Dieu, tout entier contenu dans la personne même de celui qui parle, de Jésus. Si bien que le christianisme vrai est une personne, et je le redis encore après bien des fois, le salut est dans une personne. La Bible nous présente la personne du Christ et nous livre son enseignement. La doctrine est contenue dans ce livre saint, la Bible, mais avant la Bible, au-dessus de la Bible, au-dessus de la doctrine, il y a la réalité vivante du Christ Jésus. Nous ne sommes pas des bibliolâtres. Ah, il faut faire attention à ça aussi. Il y a des gens qui le sont devenus, n'est-ce pas? La Bible, c'est tout juste, n'est-ce pas? On ne va pas, n'est-ce pas, en faire l'objet d'une idolâtrie, d'une adoration. Il y a bien des... Évidemment, le catholicisme n'est pas à une idolâtrie près, n'est-ce pas? Mais il est arrivé à des moines de prendre une Bible naturellement de grande dimension, plus grande que celle-là, n'est-ce pas? Une grande, qui se voit bien, avec beaucoup d'enluminure, et puis de la promener en procession au milieu des cierges, n'est-ce pas? Et puis de chanter des cantiques derrière, enfin, voyez-vous, pour cela, pour donner... Tout au moins c'était dans l'intention, un démenti à l'action évangélique qui se déroulait en ce même lieu, n'est-ce pas? Eh bien, indépendamment de cette idolâtrie grossière, il peut y avoir une idolâtrie peut-être plus raffinée, de laquelle il faut se dégager, n'est-ce pas? Ce n'est pas le livre que nous adorons, c'est par le livre. Le livre est une voix. Nous savons que toute parole est inspirée de Dieu, bien entendu, et nous le savons encore plus et encore mieux si nous ne faisons pas de la Bible un sujet d'adoration. La Bible nous fait connaître le Christ par le témoignage inspiré de ses écrivains, des apôtres notamment, la doctrine qui y est exposée a pour objet de guider notre pensée, a pour objet d'informer notre foi, de préciser l'objet de notre foi. Notre foi, n'est-ce pas, est quelque chose qui s'élance, mais s'il n'y a pas la Bible, s'il n'y a pas le Saint-Livre, n'est-ce pas, notre foi va errer et peut-être saisir de mauvaises choses. Non, là, n'est-ce pas, elle aura ses véritables objets. Et puis, la Bible assigne des limites aux objets de la foi. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais en définitive, avec l'Esprit Saint, il faut arriver à connaître Christ, à connaître la personne de Christ. Lui seul, et par la personne de Christ, connaître Dieu le Père et se laisser dépouiller de tout ce qui voilerait le Christ et Dieu, et de tout ce qui nous détournerait de l'adoration en esprit et en vérité, et notamment ces misérables intermédiaires que sont les choses rituelles, n'est-ce pas, les actes rituels, les sacrements, ou tout ce que l'on peut trouver dans la tradition du christianisme, n'est-ce pas. Ce sont des misérables intermédiaires, des intermédiaires gênants dont on ne peut plus se satisfaire. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Paul écrit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux païens, aux gentils ou aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire, voilà le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Il ne s'agit pas de rester sur un écrit, il ne s'agit pas de rester sur une pensée que l'intelligence humaine va considérer, étendre, et sur laquelle elle va discuter. Il s'agit d'aller au mystère de la piété, et qui est quoi ? Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Où allons-nous apprendre à vivre la justice ? Où allons-nous reconnaître la sainteté et apprendre aussi à la désirer ? Où trouverons-nous la puissance de la prière et de la foi ? En la personne du Christ, regardé, contemplé, aimé et suivi. Voilà ce que nous avons à faire. N'est-ce pas ? C'est clair. Autrement, c'est l'errance. En la personne de Jésus-Christ, regardé, contemplé, aimé, suivi. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit « Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Ne vous laissez pas égarer. La doctrine est quelque chose qui vous a mené vers lui, qui vous mènera plus près de lui, qui guidera les pensées de votre cœur, qui vous permettra de mieux comprendre votre marche nouvelle, dans la vie nouvelle. Mais le but, c'est d'aller à lui, de s'approcher de lui, de le considérer, de le contempler. Comment le chrétien pourra-t-il donc sanctifier sa vie ? Dans la communion. La communion au Père et au Fils. Quelle est l'espérance du chrétien ? L'Écriture nous le dit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jamais, vous voyez, la Bible nous a dit, attention, n'est-ce pas, vous allez trouver là les éléments d'une théologie, d'une doctrine, vous allez vous-même philosopher sur tout cela, vous allez réfléchir, vous allez pouvoir même rédiger une dogmatique. Non, jamais, n'est-ce pas, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, n'est-ce pas, comment la Bible nous guide, et elle nous guide bien, puisqu'elle est inspirée. Qui va ressusciter le croyant ? C'est-à-dire l'homme qui aura persévéré jusqu'à la fin, qui aura subsisté par la foi. Je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai. Christ. Qui va juger le monde ? Christ. Celui qui a le Fils, et ça, cela nous est donné comme le témoignage de Dieu lui-même, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, même s'il a beaucoup de connaissances et de doctrines. Celui qui a le Fils a la vie, avec tout ce que comporte la vie nouvelle. Si j'ai le Christ, j'ai tout de la vie nouvelle, absolument tout de cette vie. Nous n'avons pas lu, parce que je n'ai pas poursuivi la lecture dans Hébreu 1, nous n'avons lu que les deux premiers versets, mais le verset 3 nous dit que Jésus est l'empreinte du Père. Si bien que, si Jésus est l'empreinte du Père, l'enseignement de Jésus est aussi l'empreinte de sa personne, et par conséquent, l'empreinte de Dieu. Nous trouvons dans l'enseignement de Jésus, nous découvrons sa personne et nous découvrons la personne de Dieu. Ainsi, l'enseignement, le véritable enseignement, l'enseignement que le Seigneur Jésus nous a donné et que le Saint-Esprit a consigné dans le Saint-Livre, l'enseignement de Jésus n'est qu'une communication de Jésus-Christ. La communication du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? La communication de Jésus-Christ, de sa vie, de ses perfections. Tout autre enseignement n'est jamais qu'une philosophie humaine, c'est ce qu'est la théologie en général, une philosophie humaine, n'est-ce pas, et tout enseignement de ce genre, tout enseignement théologique, donne des pierres à la place de pain. C'est l'enseignement de Jésus qui nous donnera le pain, le vrai pain descendu du ciel. La parole, d'une manière générale, sert à révéler les pensées. Et là, bien entendu, la parole du Seigneur va révéler la pensée de Christ. C'est ce que Paul nous dit dans les Corinthiens. Nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ dans sa vérité, dans sa réalité, dans tout son volume, dans toute sa clarté. Il a fallu que l'enseignement de Jésus puisse aboutir à cela. L'enseignement de Jésus, la parole de Jésus, donc, a révélé parfaitement la pensée de Jésus, c'est-à-dire la pensée de Dieu. On ne peut rien demander de plus ou de mieux à une révélation que de reproduire complètement, nettement, les choses cachées qu'elle a pour mission de faire connaître. Une révélation fait connaître des choses qui étaient cachées, puisqu'elles n'étaient pas révélées, elles n'étaient pas données, livrées, n'est-ce pas? Eh bien, ce que l'on peut demander à une révélation, n'est-ce pas, c'est de faire connaître les choses qu'elle a mission de faire connaître, de les révéler, de les reproduire d'une façon certaine, complète. Eh bien, Christ, par sa parole, révèle parfaitement les choses cachées. Sa parole est la reproduction fidèle de son être, de sa pensée, qui est celle du Père, si bien que sa parole est parfaite. Sa parole est la vérité, et lui-même, il est dans sa parole. Et c'est tout cela que le Seigneur Jésus exprime en disant ceci: ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole, c'est la parole que Christ nous a donnée, mais elle est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. La vérité, parce qu'elle a révélé parfaitement. Alors, nous irions, nous, chercher cette vérité révélée indirectement par une théologie qui a entendu mâcher tout cela intellectuellement. Nous irions chercher, en somme, des pierres à la place de pain. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus parle en révélant avec perfection sa personne, sa vie, sa divinité, si bien que la parole de Christ est le langage parfait de l'amour divin. Je voudrais maintenant considérer l'un des grands caractères que j'ai énoncé au début, à savoir l'humilité dans laquelle se tient l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement humble. Et pourtant, c'est, nous venons de le dire, n'est-ce pas, le révélateur, cet enseignement révèle la pensée de Dieu dans son entier développement, dans sa clarté, et c'est un enseignement humble. Ah. C'est que du temps de Jésus, les docteurs étaient des gens qui s'attribuaient une haute dignité et qui ne pouvaient jamais parler selon l'humilité. Le ton de ces docteurs était celui de l'autorité humaine, despotique. Il fallait les croire, eux. Il fallait accepter leurs paroles. Ils parlaient, comme Jésus le leur a dit, du haut de la chair de Moïse. Ils étaient là, juchés. Je notais que Moïse n'a jamais eu de chair. Mais enfin, n'est-ce pas, la chair de Moïse, c'est-à-dire, n'est-ce pas, tout ce qu'on pouvait tirer de la loi, du Pentateuque. Alors, de cela, n'est-ce pas, ils avaient fait un enseignement auquel toutes sortes de principes traditionnels, de préceptes étaient joints, et ils enseignaient tout cela du haut de la chaire de Moïse, parce qu'ils avaient mis Moïse très haut comme le grand docteur d'Israël. Et ils imposaient quoi? Avec leur autorité, ils imposaient leurs interprétations, se posant en fidèles gardiens de la foi. Ils avaient une éloquence, les scribes même, qui parlaient beaucoup, avaient une éloquence, n'est-ce pas? Et le peuple dira, mais d'où lui vient cette autorité? Il parle autrement que les scribes, il parle tout autrement que les scribes. Ah, oh, c'est autre chose. Les scribes, c'était l'éloquence. L'éloquence qui avait à son service toute une préparation, toute une expérience. Leur éloquence était d'ailleurs moulée dans les formes consacrées. Elle était, bien entendu, artificielle. Comment aurait-elle été humble? Et on peut dire que leur enseignement reflétait leur personne telle que nous la connaissons au travers même de ce que Jésus en a dit. Ces docteurs, les docteurs de la loi, voulaient inspirer le respect par leurs longues robes, par leurs phylactères, s'accordant à eux-mêmes une dignité qui les élevait au-dessus de tous. Quel contraste avec Jésus. Si j'ai dit ces choses, c'est parce que nous trouvons en effet dans l'Évangile ce grand contraste. L'avez-vous remarqué? Si Jésus dit ces choses, n'est-ce pas, c'est pour nous montrer le contraste. Le contraste avec lui, l'humble habitant de Nazareth, qui sort d'une échoppe de charpentier jusqu'à 30 ans, maniant les outils du charpentier. Il vient d'ailleurs d'un pays qui est méprisé. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Il vient d'un pays méprisé. Il parle non pas dans les grands amphithéâtres, mais il parle au bord du lac, sur une montagne, dans les champs, au bord d'un puits. Rien dans son enseignement ne sent la recherche humaine. Rien. Il ne s'impose à personne. C'est l'autorité de sa parole qui impose quelque chose au cœur de ceux qui s'ouvrent, de ceux qui ont la foi. Au cœur des humbles. Il est lui-même humble et tout de cœur. Il est humble. Sa parole est humble. Et c'est pourquoi il touche les humbles. Ah, chers amis, nous avons une belle leçon, là, n'est-ce pas? Nous avons une belle leçon. C'est pas seulement, n'est-ce pas, très intéressant de reconnaître cela pour Christ et pour sa parole, mais nous, est-ce que notre parole est celle de l'humilité? Est-ce qu'elle est toujours humble, notre parole? Ah, mes amis, nous avons beaucoup de progrès à faire dans cette direction-là. Nous avons beaucoup de choses à réapprendre, à considérer avec l'intelligence spirituelle, avec la sagesse spirituelle, n'est-ce pas, et avec foi, pour n'avoir, nous, qu'un témoignage humble. Humble. Un témoignage empreint de cette véritable humilité qui n'est pas une qualité morale, mais qui est un don spirituel. L'humilité, la véritable humilité. Il est humble et il touche les humbles. Sa parole est franche et dépouillée de toute forme solennelle. Les sujets de ses paraboles, les sujets porteurs, les sujets directs de son enseignement par parabole, où les prend-il? Tout autour de ses auditeurs. Traverse-t-on un champ de blé? Bien, ce sera cela, ce sera la moisson. Est-on près d'un puits? Ce sera l'eau vive du puits. Traverse-t-on les vignes? Ce sera le cep et les sarments. Est-on devant des pêcheurs? Il s'agira de poissons, il s'agira de filets. Vous voyez, n'est-ce pas, cette simplicité de l'enseignement du maître. Nous prononçons quelquefois encore un mot que je n'aime pas, d'ailleurs ça correspond à une notion qui n'a absolument rien d'évangélique. C'est le mot de laïque. C'est un mot qui devrait être proscrit de notre vocabulaire, il y revient, hélas. Il y revient de l'extérieur, il n'est pas venu, lui, de la Bible. Il n'y a pas de laïque ni de clerc. Il peut y avoir des ministères, certes, mais les ministères ne créent pas une caste. Ne créent pas un clergé. Ça, il faut s'en défendre absolument, parce que ça n'a rien d'évangélique. Le ministère s'impose par son exercice. Il s'impose par son exercice. Il s'impose par l'autorité surnaturelle de la parole de Dieu. Et par le Saint-Esprit qui va guider celui qui exerce un ministère vers les âmes, va lui donner tout le tact spirituel nécessaire pour faire du bien aux âmes. Voilà le ministère. Pierre dit bien, n'est-ce pas, que... Ceux qui exercent un ministère ne sont pas là, ceux qui vont paître le peuple, là pour dominer sur lui, n'est-ce pas? Par conséquent, ce mot de laïque et cette notion de laïque sont absolument artificiels. Ça n'a absolument rien à voir dans la pensée évangélique. Alors, si jamais on parlait de laïque, eh bien on serait obligé de considérer Jésus comme un laïque. Parce qu'il a parlé. Il a parlé non pas comme les docteurs. Il n'a pas parlé dans des formes. Il a parlé un langage simple, et ce langage, aujourd'hui, bien de nos pasteurs protestants l'appelleraient le langage d'un laïc. Il y a quelque temps, je rencontrais un grand pasteur protestant, et alors, me demandant ce que je faisais dans le mouvement de Pentecôte, je lui ai dit que j'étais pasteur, qu'allais-je lui dire, n'est-ce pas? Je lui ai dit que j'étais pasteur. Ah, il me dit, c'est très bien. En somme, n'est-ce pas, on voit que dans le mouvement de Pentecôte, ils savent prendre des laïcs et les utiliser. Ça y est, j'étais catalogué laïc à côté de lui, n'est-ce pas? Lui, il était vraiment le pasteur. Et moi, j'étais le laïc. Mais ça ne me gêne pas, n'est-ce pas? Ça ne me gêne pas du tout d'être le laïc. Parce que le Seigneur Jésus l'a été avant nous, n'est-ce pas? Et je veux bien être un laïc, comme l'a été le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il avait la parole simple, rien de doctoral, rien de convenu. Il parle comme un ami. Il parle avec l'amour tendre et réel de celui qu'il révèle, Dieu le Père, ni forme, ni éclat, ni élégance de style. Il y a justesse de style, mais il n'y a pas élégance de style. Il y a simplicité, il y a vérité, et là est véritablement la perfection. N'est-il pas le prophète par excellence, c'est-à-dire l'organe de l'éternelle vérité, la révélation. Il apporte la révélation étant l'organe de l'éternelle vérité. Son enseignement n'a besoin d'aucune forme étrangère pour triompher. La seule force de l'Esprit de Dieu est là. Je dirais qu'elle suffit. Le mot est lui-même pas très bien à sa place, mais disons que la force de l'Esprit de Dieu, elle a là toute liberté pour se manifester, car elle n'est pas entravée, gênée par les conventions du langage humain. La vérité de Dieu ne se déguise pas. Elle ne se déguise pas, elle s'exprime sans se déguiser. Elle n'a pas besoin de l'éloquence. Elle n'a pas besoin de la rhétorique. Et j'aimerais vous rappeler ce que Paul, qui avait senti ces choses, et Paul, s'il vous plaît, était un grand docteur, eh bien, il avait senti ces choses. Et voyons comment il s'exprimait dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Au chapitre 2, verset 4, « Et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et si Paul peut dire ça de lui, de son enseignement, de sa proclamation de l'Évangile, que dire de Jésus-Christ? Il le sait de Jésus-Christ, et c'est pourquoi il le veut pour lui-même. Je disais que la parole de Dieu, la parole de Christ, n'a besoin ni de forme, ni d'éclat, ni d'élégance de style, mais elle est empreinte de simplicité et de vérité, et qu'en cela, nous lui reconnaissons la perfection. La seule force de l'Esprit de Dieu, la seule intervention de l'Esprit de Dieu suffit, c'est elle qu'il faut laisser agir à travers l'homme que Dieu a choisi pour exercer un ministère, et c'est ce que Christ nous montre excellemment comme exemple. La vérité de Dieu ne se déguise pas de l'éloquence, elle ne se farde pas. La parole des hommes, souvent, et ceux qui parlent à des foules, est une parole maquillée, fardée. Il ne peut pas en être de même de la parole de Christ. Elle est une parole qui ne fascine pas par une beauté empruntée à la terre. Car il faut bien reconnaître que certains discours sont intellectuellement agréables. Enfin, ce sont des discours qui fascinent, et vous savez qu'il y a des hommes qui ont véritablement une puissance de fascination dans la parole. Hein? C'est comme ça que les grands tribuns réussissent souvent, n'est-ce pas, une fascination, rien de tel dans le Seigneur Jésus et dans sa parole. Sa parole est pure et elle brille de son immortelle beauté, on pourrait dire de sa beauté native. Elle naît dans la beauté, elle se perpétue dans la beauté. Et nous l'avons si nous voulons laisser le Saint-Esprit visiter nos cœurs, le Saint-Esprit se rendre maître de nos cœurs. Nous retrouverons, nous, dans la Bible, dans les Évangiles, cet enseignement de Jésus qui a été là consigné par les témoignages des apôtres et des écrivains sacrés, nous retrouverons cette immortelle beauté de la parole du Seigneur, nous y retrouverons la puissance de Dieu qui se plaît dans la simplicité et l'humilité. Amen.